grand angle.
Vous êtes bien sûr Radio Orient, gros plan sur les enseignements du premier tour des élections municipales dimanche en France. Notre invité Arnaud Benedetti, politologue, fondateur, directeur de la nouvelle revue politique. Bonjour Arnaud Benedetti.
Bonjour à vous.
Alors un peu plus d'un an de l'élection présidentielle, le paysage politique semble plus que fragmenté après ces élections municipales. Tout d'abord, quels principaux enseignements vous tirez de ce scrutin ?
Ben d'abord, un taux de participation qui est un taux de participation faible pour une élection municipale, puisque si l'on fait exception du scrutin municipal de 2020 qui avait été particulièrement perturbé par la crise sanitaire, on a le plus fort taux d'abstention lors d'une élection municipale sous la Ve République. Donc ça, c'est un premier enseignement. Deuxième enseignement qu'il faut retenir, c'est que on a une poussée des forces que sont le Rassemblement national d'un côté, qui remporte dès le premier tour un certain nombre de villes, qui voit un certain nombre de ses maires confirmés dès le premier tour.
Comme Louis Alliot,
notamment Louis Alliot à Perpignan ou M. Steve Briouat à Hénin-Beaumont, et qui remporte des communes de 10 000, 15 000 habitants dans le Nord, qui, grâce à son allié UDR, remporte par exemple Cagnes-sur-Mer dès le premier tour, et
UDR,
qui est en mesure.
Le
parti d'Éric Ciotti, et qui est en mesure de l'emporter vraisemblablement à Nice, peut-être à Toulon, et avec un score important, on l'a vu à Marseille, où M. Alizio fait quasiment jeu égal avec M. Payan. Du côté de LFI, il y a une évidente percée également électorale qu'il faut souligner, une victoire en Seine-Saint-Denis dès le premier tour, un candidat, M. Picmal, qui à Toulouse, contre toute attente, déjoue les pronostics et arrive deuxième devant le candidat socialiste et vient de sceller une alliance d'ailleurs avec le candidat socialiste, une victoire possible et même fortement possible à Roubaix. Donc une France insoumise qui exerce une pression très forte sur le parti socialiste, y compris d'ailleurs à Marseille, avec le score de M. Delogu, ou à Paris, avec le score de Mme Chikirou. Je crois que c'est le deuxième enseignement qui montre que, finalement, les forces de clarification politique, que sont d'un côté le Rassemblement national et de l'autre côté LFI, sont en dynamique, et c'est d'ailleurs les deux forces politiques dont on peut considérer qu'elles sont vraiment en dynamique. Et troisièmement, les partis de gouvernement, c'est-à-dire que du côté de la Macronie, du côté de LR, du côté du PS, on est quelque part soumis à cette double pression, à la fois de la France insoumise et de l'autre côté du Rassemblement national, avec pour la première fois un espace politique qui était un espace politique où LR comme le PS disposaient de places fortes, qui est aujourd'hui soumis à une véritable concurrence de la part de ces forces politiques. Je crois que c'est là le principal enseignement que l'on peut tirer de ce premier tour des élections municipales ce dimanche.
Vous évoquiez, Arnaud Benedetti, cette victoire à Saint-Denis, la victoire de Bali Bagayoko, ce maire insoumis désormais de Saint-Denis. Comment est-ce que vous expliquez la percée de LFI dans plusieurs grandes villes? Il y a aussi des gros scores à Limoges, à Toulouse, à Lille. Roubaix, vous en avez parlé.
Une stratégie qui est une stratégie de radicalisation qui rencontre d'une certaine manière une demande dans une partie de l'électorat de gauche, qui est capable aussi, cette stratégie, d'aller chercher des abstentionnistes qui, jusqu'à présent, se détournaient du scrutin chez les jeunes, dans les quartiers. Indéniablement, le rapport de force qu'a réussi à construire Jean-Luc Mélenchon au niveau national est en train également de prendre une forme extrêmement concurrentielle dans l'espace municipal. Donc de ce point de vue-là, la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, qui a été très critiquée à la fois par les observateurs et par un certain nombre d'acteurs politiques, s'avère pour l'instant payante, y compris au niveau des municipales.
C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a un gros décalage entre ce qui a été dit pendant la campagne, les accusations d'antisémitisme vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon, qui a ironisé avec des noms de familles juifs, un parti qui a été qualifié d'infréquentable par nombreux de ses adversaires, et on a l'impression que les électeurs n'ont pas perçu cela de la même manière.
Alors il faudra quand même regarder ce qu'il en est lors des seconds tours. C'est-à-dire que maintenant la question qui se pose, c'est de savoir si les alliances éventuelles qui pourraient, qui déjà se nouent sur le terrain entre la gauche réformiste et les insoumis, malgré, je le rappelle, les mots d'ordre du premier secrétaire du Parti socialiste, M. Faure, qui a dit qu'il n'y aurait pas d'alliance entre
national, voilà.
au niveau national. Est-ce que les alliances qui sont en train de se nouer sur le terrain seront acceptées électoralement et politiquement par une partie de l'électorat de gauche? C'est, je crois, aujourd'hui l'interrogation principale qui se pose à la veille de ce second tour des élections municipales. On voit que du côté du Parti socialiste, par exemple, quelqu'un comme François Hollande, lui, n'y est pas favorable et prodigue plutôt une étanchéité absolue entre le PS et la France insoumise, parce qu'il doit considérer qu'il peut y avoir un coup électoral ou un coup politique, si ce n'est au municipal, mais plus tard pour la présidentielle. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour l'instant, demeure non résolu, d'une certaine façon, parce que, encore une fois, ce sont les électeurs qui, dimanche, nous donneront les premières indications sur la viabilité et l'efficience électorale de cette stratégie.
Et voilà, et le vœu des électeurs n'est-il pas justement de sceller des alliances, notamment entre la France insoumise et le Parti socialiste, ceux qui ont été interrogés ce dimanche au soir des municipales ont semblé souhaiter cette alliance, notamment à Paris, cette alliance qui a priori n'aurait pas lieu. Idem hein, pour les électeurs de droite qui pour beaucoup seraient prêts à une alliance avec la droite radicale. On a le sentiment qu'il y a une différence notable entre le vœu des électeurs aujourd'hui et celui des partis, en tout cas leur positionnement.
Alors, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, et ça c'est aujourd'hui une différence par rapport à ce qu'on a connu par le passé, en tout cas à droite, c'est que quand on interroge l'opinion publique, quand on interroge les électeurs de droite, majoritairement les électeurs de droite aujourd'hui ne voient plus d'inconvénient à une alliance entre, par exemple, le RN et la droite républicaine. Mais l'état-major, en tout cas de LR, y est à ce stade opposé. On a entendu hier Bruno Retailleau qui n'a pas préconisé une alliance avec le Rassemblement national. Du côté de la gauche, il faudra encore une fois mesurer ce qui va se passer au second tour de cette élection municipale. Les sondages qui avaient été publiés après le drame de Lyon et le lynchage de ce jeune militant nationaliste par des militants de la Jeune Garde avaient montré qu'il y avait quand même des interrogations qui se posaient non seulement dans l'électorat de manière générale, mais également dans l'électorat socialiste sur une alliance potentielle avec la France insoumise dans la perspective des élections municipales, d'où le flottement indéniable qui aujourd'hui règne au sein de la direction du Parti socialiste.
Vous évoquiez la déclaration de Bruno Retailleau ce dimanche soir, qui en effet a exclu toute éventuelle alliance avec la gauche. Il n'a pas exclu les alliances avec le RN, même s'il ne l'a pas mentionné. Ça, c'est intéressant aussi. On a le sentiment qu'il a suivi, d'une certaine manière, la volonté de ses électeurs, mais sans le formuler.
Il y a une petite inflexion, en effet, pour qui veut écouter et qui sait écouter, dans les propos de Bruno Retailleau. Il a évoqué, d'ailleurs, l'idée d'une majorité nationale, ce qui est une notion un peu nouvelle dans sa bouche, et même dans le débat politique à droite. Et il a fait clairement de son adversaire, la gauche et la France insoumise, puisqu'il a appelé partout à faire barrage à la gauche et à la France insoumise, sans dire qu'il fallait faire barrage au Rassemblement national. Donc on peut considérer que quelque part, il y a une petite évolution, au moins sur le plan sémantique, du côté du président de LR, qui doit en effet prendre acte de la poussée du Rassemblement national sur le plan municipal.
Est-ce que le résultat de ce premier tour peut conforter cette idée d'un duel lors de la présidentielle entre le Rassemblement national et la France insoumise? Est-ce l'un des indicateurs lorsque l'on voit que ces deux blocs se renforcent au détriment de la majorité présidentielle, qui n'est d'ailleurs plus une majorité, et de LR?
Oui, clairement, d'ailleurs, c'est la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire d'imposer une nouvelle scène politique entre d'un côté LFI et de l'autre côté le Rassemblement national. C'est même le rêve de Jean-Luc Mélenchon et c'est vraisemblablement aussi le rêve du Rassemblement national, chacun étant dans cette affaire à la fois opposés mais en même temps associés rivaux. Et indéniablement, cette hypothèse n'est plus à totalement exclure, parce que les mouvements que l'on voit apparaître en ce qui concerne ces élections municipales montrent que finalement la polarisation entre ces deux blocs devient quelque part progressivement dominante sur la scène politique française, y compris dans des élections qui n'étaient pas favorables jusqu'à maintenant à la France insoumise et au Rassemblement national.
Merci.
Merci à vous.
Benedetti, vous êtes politologue, professeur associé à la Sorbonne, directeur fondateur de la Nouvelle Revue Politique. Merci à vous, chers auditeurs.
C'était Grand Angle sur Radio Orient.